assistant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.
Bonjour à tous. Qu'est-ce que le sacerdoce universel ? C'est un des fondements de la conception de l'Église mise en place par la Réforme. Je pourrais inviter quelqu'un ici pour faire un exposé théorique, mais à la place, j'ai préféré inviter Anne-Marie Borne, qui est pour moi et pour beaucoup d'autres, surtout à Montpellier, donc un des visages du sacerdoce universel. Alors, bonjour Anne-Marie.
Bonjour Yolande.
Je suppose que la plupart des protestants EPUDF ou EPUMA, alors EPUDF de Montpellier, EPUMA, vous connaissent.
Je pense.
Oui. Mais pour ceux qui ne sont pas protestants, ils ne vous connaissent pas forcément, donc on va vous présenter. Et puis aussi, peut-être pour les protestants qui vous connaissent, parce qu'ils savent que vous allez peut-être les enterrer, vous occuper de ceci, vous occuper de cela, mais finalement, ils ne vous connaissent peut-être pas. Alors ici, un protestant peut en cacher un autre, on va faire connaissance. Alors, première question, dont la réponse va être très brève, qu'est-ce que vous ne faites pas dans l'Église ?
Beaucoup de choses. Qu'est-ce que je ne fais pas dans l'Église ?
C'est pas si évident que ça.
Je ne sais pas quoi vous répondre parce qu'il y a divers aspects d'engagement dans l'Église et il y a diverses formes aussi. J'ai des engagements sur certains aspects, mais en même temps, je ne suis pas sur tout. Sûrement des lieux de culte où je ne vais pas. Il y a des lieux d'engagement.
Vous faites tout ce qui est permis à un pasteur ou à... C'est-à-dire, vous faites les cultes, vous avez fait du catéchisme, vous faites des baptêmes, vous faites des mariages, vous faites des enterrements. Enfin, voilà, donc ma question, c'était concrètement, est-ce qu'il y a un domaine, par exemple, que vous n'aimez pas faire ?
Question piège à laquelle je n'ai pas réfléchi.
Par exemple, les enterrements. Moi, ça m'est arrivé d'en faire un. Je me suis juré de ne plus jamais en faire parce que je pleure autant que la famille. Comment vous faites ? Enfin, là je suis rentrée dans le... Parce que bon, c'était ma question qui appelait ça, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure.
Alors, ce qui est important peut-être de préciser, c'est que je ne suis pas pasteur, et je tiens à le dire et à l'affirmer, et c'est un choix, j'ai fait un autre choix de profession, mais j'ai été appelée tout au long de mes 50 ans d'engagement dans l'Église réformée de France, puis Église protestante unie de France, à des missions, à des engagements. Donc la première des choses est d'être discernée et appelée par un conseil presbytéral notamment, puisqu'on est sur une église locale, ou par un conseil régional, puisque j'ai été aussi en mandat régional pendant 3 mandats. Donc la première des choses, c'est d'être discerné et d'être appelé. Ensuite, pour moi, il y a une troisième chose qui est capitale, c'est de se former. Et donc, effectivement, que ce soit pour la catéchèse, que ce soit pour l'accompagnement des familles en deuil, que ce soit pour les cultes, que ce soit pour différentes, pour les jeunes, etc. Ce qui est important, c'est de se former. Et donc, effectivement, par la formation, j'ai pu avoir avec des pasteurs divers et variés en 50 ans, des ressources absolument indéniables et utiles pour moi. Parce que le pasteur, de par sa formation, de par son positionnement, puisque lui, il est pasteur de l'Église protestante unie de France.
Oui, du national.
Voilà, missionné sur telle ou telle église locale, ce qui montre bien la différence de la place que nous occupons.
Oui.
Et vis-à-vis des familles en deuil, puisque c'était votre question, je me présente toujours comme n'étant pas pasteur. S'ils préféraient un pasteur, ils ont tout à fait le droit. Comme dans l'Église catholique, effectivement, il y a des diacres, dans l'Église protestante, même si l'article de la Constitution est toujours vide là-dessus, j'ai plus un rôle de diacre, discerné, appelé, former et, j'aime aussi dire, évaluer. Il est important pour moi d'avoir une évaluation, que ce soit avec des pasteurs, un conseil presbytéral, etc., etc. Évaluation voulant dire mesurer l'écart entre l'objectif visé et l'objectif atteint. Et nous pouvons effectivement avoir des dérives, donc c'est important à ce moment-là de mettre un stop dans son engagement de témoin, d'annonce de l'Évangile à des places diversifiées.
Alors là, on est déjà rentré un peu tôt dans le vif du sujet, mais on va y revenir. D'abord, un protestant peut en cacher un autre. Donc, vous êtes tombé dans le chaudron. Bon, se former, oui, mais c'est un peu génétique chez vous, non? Bon, père pasteur.
Alors, effectivement, mon père était pasteur, et puis dans la famille...
Donc, je ne vous ai pas présenté Anne-Marie Born. Ben, si, je l'ai dit, si.
Voilà, Anne-Marie Born. Donc, mon père était pasteur, Daniel Finder. Et donc, cette famille était effectivement avec beaucoup de pasteurs, mais mon beau-père était pasteur, d'un style tout à fait différent, dans la mission populaire, donc c'était aussi intéressant. Et puis j'ai des cousins qui sont encore pasteurs en activité, donc voilà. Mais ce qui est important de dire, c'est que même si j'ai une famille pastorale et qu'on pourrait penser que je suis tombée dans la marmite ou dans le chaudron, ce qui est important pour moi, c'est de dire que d'abord, je suis très reconnaissante à ce que mes parents m'ont permis de découvrir. Mon père a été missionnaire au Togo dans la brousse, donc ça a été aussi une découverte.
Vous êtes allée au Togo dans la brousse ?
Oui, j'avais un an, donc effectivement, j'y ai vécu 10 ans. Ah. Mes frères et sœurs sont nés là-bas. Ouais. Ma mère a été extrêmement courageuse parce que nous vivions dans des conditions à l'époque assez précaire, et j'ai découvert une manière d'annoncer l'Évangile et d'entrer en relation avec les autres, qui était tout à fait passionnante et qui, je pense, c'est un héritage aussi que j'ai eu. Mais par contre, la démarche de foi ou de confiance en Dieu ou de croire en Dieu est une démarche tout à fait personnelle.
Bien sûr,
parce qu'à un moment donné de ma vie, un verset a résonné et j'ai cherché comment il pouvait prendre sens dans ma vie.
Oui, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu envie de devenir pasteur, vous n'avez pas eu envie de suivre les traces de votre père.
Absolument pas.
Et est-ce que vous avez, à un moment, c'est une question très personnelle, vous n'êtes pas obligé de répondre comme toutes les questions, est-ce qu'à un moment vous avez quitté la foi? Est-ce que la foi vous a quitté?
J'ai pas eu cette expérience-là.
D'accord.
Avec mon mari, on a toujours été engagés dans les différentes églises locales, puisque nous avons souvent déménagé, et donc nous avons pu cheminer et expérimenter des expériences de vie dans les églises locales différentes. Mais je dirais que les épreuves que j'ai subies dans mes engagements d'église ne m'ont pas amené à me détourner de la foi. J'ai pu, par la prière, par un accompagnement, etc., replacer ça dans le fait que l'homme est humain, et que c'est un humain faillible, et que ce n'était pas de la méchanceté consciente, mais c'était plutôt des a priori, de l'inconscience, qui avait amené des attaques et des moments très difficiles vécus dans l'Église.
Oui, parce que les moments difficiles vécus dans l'Église, on en parlera, parce que je vais recevoir aussi Frédéric Rognon, qui parle donc dans le livre « Comprendre et lutter contre les violences en protestantisme ». Il parle des difficultés spécifiques au protestantisme et il dit que les églises, et tout particulièrement les églises protestantes, sont des lieux privilégiés de la violence, et que les églises protestantes connaissent davantage de conflits violents, parfois même ravageurs. Et moi, personnellement, je dirais qu'il y a beaucoup d'églises que j'ai fréquentées où il y avait des conflits. Alors, on en parlera avec Frédéric. Là, on va pas trop s'engager là-dedans. On va peut-être y revenir si on a le temps, mais je voudrais qu'on reste d'abord sur vous. Donc, vous avez un engagement. Alors, finalement, donc, pas envie de devenir pasteur, mais pas de rupture de la foi non plus. Toujours ce chemin smooth, si on peut dire, doux.
Oui.
C'est peut-être un tempérament aussi, ça.
C'est plutôt ça, voilà. D'accord. Je pense que c'est plutôt une question de tempérament.
D'accord. Alors, votre engagement, vous avez un engagement national, régional, enfin, vous avez eu peut-être, oui, je ne sais pas, vous allez nous dire, régionale et locale. Quand je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas grand-chose que vous ne faites pas, il y a aussi pas grand, comment dirais-je moi, pas grand domaine géographique, à part l'international, mais bon, là c'est peut-être un peu loin, que vous n'avez pas fait.
Alors, tout à fait.
Qu'est-ce que vous avez fait au niveau national, alors ?
Au niveau national, j'ai été appelée pendant quelques années à contribuer dans la coordination nationale formation évangélisation, témoignage évangélisation. Et voilà, nous étions une équipe extrêmement sympathique et dans laquelle nous avons, je crois, partagé beaucoup de choses et dont le but était effectivement d'accompagner les églises locales, parce que témoigner à nos contemporains dans le monde actuel est quand même difficile, et donc c'est important de vérifier de quoi ils avaient besoin en termes de formation, en termes de témoignage, de méditation, etc., etc.
C'était voilà. Pour aider toutes les communautés dans l'annonce de l'Évangile.
Voilà, et par le biais des conseils régionaux, donc la secrétaire générale rencontrait les présidents de conseils régionaux, faisait part de ce que nous travaillons dans la commission, et cela permettait ensuite, en synode, d'être dispatché auprès des délégués synodaux pour pouvoir effectivement faire appel, et c'est comme ça qu'il y a eu, notamment sur Montpellier, des formations qui ont eu lieu à la demande des membres locaux pour pouvoir apprendre déjà par soi-même en tant que membre engagé comment je veux témoigner, de quoi je veux témoigner, les difficultés que je rencontre à témoigner, et du coup comme ça, eh bien, en étant aidé par une formation, eh bien, ça permet effectivement de s'outiller.
Si je comprends bien, vous essayez de comprendre les besoins spécifiques à chaque communauté avant de proposer quelque chose. C'est pas un manuel que vous envoyez avec directive petit 1, grand 1.
D'accord. Il y a adaptabilité aux besoins des uns et des autres.
Qui doivent être très différentes, qui doivent être très différents les besoins des uns et des autres.
Alors, il y a des différences qui sont souvent citées entre les églises des grandes villes, les églises du rural, de la montagne, du littoral. Après, je pense que les difficultés du témoignage dans le quotidien de nos concitoyens a quand même une base qui est la même, c'est-à-dire qu'il y a une déchristianisation, une sécularisation, les gens ont peur de la religion, on confond avoir confiance en Dieu et croire et la religion, parce que la religion, elle est le fait aussi des humains, comme quand on parlait des violences dans l'Église, c'est le reflet de ce que l'humain fait, et qu'il soit chrétien ou non, il est souvent... il n'est pas infaillible, est imparfait, et la difficulté est de reconnaître ça. Donc du coup, nos contemporains ont vraiment besoin qu'on leur parle avec un langage audible dans leur quotidien.
Et vous êtes resté combien de temps ? Vous n'y êtes plus ? Vous y êtes toujours ?
Non, j'ai dû faire 6 ans, je crois, un mandat
D'accord.
et demi.
6 ans. Et alors, vous avez été à la région, donc conseiller régional en Cévennes, Languedoc-Roussillon. Vous étiez chargé de la formation, de l'écoute. Alors, de l'animation, etc.
Alors voilà, donc j'ai eu 3 mandats en conseil régional Cévennes-Languedoc-Roussillon, auxquels j'avais des fonctions différentes. J'ai été secrétaire et puis vice-présidente. Et j'avais effectivement un axe, de par ma formation, de par un certain nombre de choses.
Mais plus vous êtes psychologue ?
Pas du tout, je suis infirmière et puéricultrice.
D'accord.
Mais je me suis formée depuis plus de 30 ans.
C'est pas si loin.
Non, c'est pas si loin. Je suis formée depuis plus de 30 ans à la communication bienveillante ou non-violente. Et puis tout le travail de formation sur l'ingénierie de la formation, parce que c'est pas former qui est important pour moi, c'est surtout ingénierer, monter un programme à partir des besoins.
Alors on va en reparler tout à l'heure de tout ça. Là, on reste sur votre parcours. Et puis local à l'EPUMA, donc ici à Montpellier. Vous avez été présidente de CP. Bon, on a vu que vous étiez prédicatrice laïque, c'est-à-dire on a parlé du sacerdoce universel tout à l'heure qu'on a défini, mais il y a aussi donc le côté plus administratif, hein, présidente de conseil presbytéral. Vous avez préparé le changement des activités du temple rue Bruès. Ça a été un moment de conflit, ça, à Montpellier.
Alors, effectivement, il y a plusieurs choses. Donc, moi, j'étais appelée en conseil presbytéral en 1997, ça ne me rajeunit pas. Mmh. Ensuite, j'ai été appelée à la fonction de présidence, parce que c'est important de dire que c'est une fonction. C'est pas être présidente ou être président, c'est une fonction. Mmh. Ça change beaucoup de choses dans la réception du message pour ceux qui sont positionnés. Et effectivement, dans les années où j'étais en charge avec d'autres membres d'église, il y a eu effectivement plusieurs sujets sur lesquels il a fallu réadapter l'Église et le fonctionnement de l'Église. Donc il y avait toute la question de la commission du cimetière à l'époque, il y a eu toute la question du secrétariat, il y a eu toute la question aussi de ces deux bâtiments qui sont le temple de Maglone et la chapelle de Bruez, qui sont très proches l'un de l'autre, avec un accès de tram maintenant pour les deux.
Je me souviens d'une église où il y avait quand même 20-30 kilomètres entre chaque temple, et quand il n'y avait pas de pasteur, il fallait faire éventuellement 80 kilomètres pour aller à un culte. Oui. Quand on voit que les gens ici voulaient pas faire 200 mètres pour aller d'un temple à l'autre, ça fait rigoler quand même.
Voilà, mais c'est parce qu'il y avait aussi une histoire.
Oui, je sais.
Et l'histoire, je crois, est importante à prendre en considération. Quand j'étais présidente de CP, j'avais justement, malgré que je travaillais encore un enfant avec mon mari à charge à la maison, etc., j'avais mis en place des temps de rencontre où les gens pouvaient venir me voir. Tout simplement pour me dire la colère qu'ils ressentaient par rapport à des changements qui devaient pouvoir s'opérer, mais avec le moins de violence possible pour eux. Et ça a été intéressant parce que les gens venaient.
D'accord.
On pourrait croire que non. Ouais. Donc j'avais des différentes permanences sur l'église réformée de Montpellier à l'époque, et ils pouvaient venir me voir. Et effectivement, il fallait parler, il fallait accompagner cette nécessité d'avoir ces deux lieux en proximité l'un de l'autre, mais pour peut-être une mission différente. Mmh. Donc un seul lieu de culte, et puis un autre lieu qui serait plus, pour l'église protestante déjà, un lieu pour accueillir les jeunes, une grande salle pour des repas, des conférences, des choses comme ça, etc. Et puis travailler avec d'autres partenaires. Et
c'est ce qui a pu se faire avec
le carrousel. Mmh. Au bout de quelques années, nous avons donc été plusieurs sur ce chantier important. Et je crois que ce qui est toujours important, c'est d'accompagner ceux pour qui ce changement est douloureux.
Et alors, ce que je retiens donc de votre action, c'est en même temps de l'administratif et en même temps donc de la prédication. Prédication, ça peut être faire des enterrements, ça peut être la catéchèse, la prédication. Et qu'est-ce qui vous fait bouger dans la prédication? Qu'est-ce qui vous intéresse théologiquement? Quels sont les thèmes que vous...
Alors, dans la prédication, il y a plusieurs choses. D'abord, j'ai toujours été intéressée par les psaumes. Les psaumes sont pour moi intéressants parce que de par ma formation professionnelle, mais aussi ce que j'essaie modestement à m'apporter de mettre en place dans la relation interpersonnelle la plus bienveillante possible, c'est qu'il faut prendre en considération les émotions de l'autre, les sensations, les sentiments, les ressentis. Et les psaumes sont l'expression par des humains comme vous et moi de tout ce qui, à un moment donné, peut cheminer dans leur vie et qu'ils ont envie de dire à Dieu. Donc ça peut être de la louange et dire merci, ça peut être de la colère, ça peut être de la peur, ça peut être de la tristesse.
Ça peut être de la violence.
De la violence aussi, parce que dans les psaumes, il y a aussi de la violence. Et donc ce qui est important dans les psaumes, c'est effectivement de se servir de ce qui a été mis en mots par d'autres pour voir comment aujourd'hui ça peut résonner. Et ça, c'est un principe qui, pour moi, avec les formations, puisque j'entame ma quatrième année à l'Institut protestant de théologie, et ce qui est important, c'est d'apprendre effectivement comment dans un texte biblique, il y a le contexte dans lequel il a été écrit, le témoin par lequel il a été écrit, mais aussi quel sens aujourd'hui il peut prendre. Après, il y a les évangiles. Et ce qui m'intéresse tout particulièrement dans ces textes, c'est la pédagogie de Jésus et comment Jésus est entré en relation avec ses pères et puis avec ses contemporains par le regard, par le toucher, par l'ouïe, comment il écoutait.
Il y a des écrits qui ont été faits, il y a des études, ou alors c'est vous qui...
Alors je ne sais pas, il y a sûrement des études qui ont été faites parce que les exégètes et les professeurs de théologie et les théologiens ont beaucoup travailler tout un tas de questions. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, sur lequel j'ai grappillé des petites choses que je commençais à écrire. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à mettre tout ça
en écrit. Peut-être qu'on pourrait en faire un thème et un anathème, parce que j'ai pas rencontré de gens qui m'ont dit être intéressés par cette chose-là. Mm-hmm. Et ça m'a fait tilt. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas approfondir cette idée de s'intéresser à la façon de communiquer.
Oui.
Donc,
et Jésus a même accepté à un moment donné de se laisser bouger, de se laisser bousculer, bouleverser par l'intervention de quelqu'un.
Now, ladies and gentlemen, here's one you all can sing with us when the saints go marching in.
Alors, on se retrouve avec Anne-Marie Borne pour continuer à évoquer votre rôle. Alors, on vient de parler de la prédication, on vient de parler de ce qui vous intéressait dans la théologie, cette idée d'étudier les moyens que Jésus utilise pour rencontrer l'autre, finalement, en dehors de la parole qu'on utilise trop souvent et qui est peut-être trop vecteur de violence. Peut-être que la meilleure façon de communiquer... Il va falloir qu'on fasse quelque chose là-dessus pour comprendre et lutter contre les violences en protestantisme, qu'on travaille sur une autre façon de communiquer. Ça sera peut-être... voilà, on apportera peut-être une petite pierre, j'en sais rien. Et voilà, donc on a parlé de ça. Alors maintenant, on va continuer à voir votre rôle par rapport à l'institution. Donc, vous avez parlé de la CNV, la communication non violente. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que la CNV ? Rapidement, parce que c'est pas le but non. de notre... voilà.
La communication non violente permet d'abord de se positionner en jeu. C'est-à-dire que dans une relation avec quelqu'un, je ne vais pas utiliser le « tu ». Qui le tutu disait Marshall Rosenberg, et c'est toutes les études qui ont été faites sur cette question-là. La communication non violente permet de partir d'abord de soi, de ses besoins, de ses émotions, de ses ressentis. Quand je suis dans une relation avec un tiers et que cette relation me heurte, puisque la première définition du mot conflit, c'est le mot heurte. Et que cette relation, quelque chose me heurte dans cette relation. Comment je vais ne pas incriminer à l'autre ce qui me heurte, mais plutôt travailler sur qu'est-ce qui, en moi, me heurte. Et du coup, c'est un travail extrêmement intéressant parce qu'il nous apprend à travailler sur nous-mêmes. Et en travaillant sur nous-mêmes, à nous rendre disponibles par la suite à ce que l'autre peut dire et à travers ce qu'il va dire, ce qu'il peut me dire. Et du coup, il y a toute une invitation aussi qui est faite pour travailler, pour que l'autre apprenne à travailler là-dessus. Et dans la communication non violente, ce qui est important, c'est d'apprendre non pas à parler sur quelqu'un ou contre quelqu'un, mais de parler avec ce quelqu'un. Et ça, c'est extrêmement enrichissant parce que, puisqu'il y a d'abord un travail sur soi, ben, ça permet de se connaître, ça permet de connaître c'est un peu ses ombres, ses lumières, ses fragilités. Mm-hmm. Et ça, c'est important parce que un être humain est fait de fragilités. Alors, il y en a qui ont besoin de les étudier plus profondément, ils vont voir un thérapeute et c'est très complémentaire. Hein. Mais ce qui est important, c'est effectivement de pouvoir travailler à une relation de communication avec un autre qui soit le plus apaisé possible. Parce que dans une relation apaisée, eh bien, il va y avoir un certain nombre de choses qui vont pouvoir se dire, comme dit Jacques Salomé, et dans ce qui va être dit, qui va être partagé, eh bien, nous apprenons, nous nous apportons mutuellement. Et Jésus a eu une communication non violente, il est le premier non violent qui s'est manifesté. Et quand il dit que nous sommes les ambassadeurs, quand Paul à un moment donné dit que nous sommes les ambassadeurs du Christ, pour moi ça résonne comme étant quelque part appelé, invité, chargé à mettre en œuvre dans nos relations les uns aux autres quelque chose d'apaisé à partir de soi d'abord.
Alors j'ai deux réflexions qui me viennent là en vous écoutant. D'abord sur la CNV. Je connais ça parce que je l'ai vécu dans une association. Le problème, c'est que vous avez deux personnes donc qui sont en conflit. Il y a l'intervention d'une autre personne donc qui va faire la CNV. Mais ça ne marche que si les deux sont, comment dirais-je moi, ont envie de déboucher sur la résolution du conflit. Comme on dit, il faut être deux pour faire un tango. Et le problème, c'est comment ça se passe, alors là, en paroisse, parce que ce qui nous intéresse ici, c'est en paroisse, comment ça se passe quand vous proposez une communication non violente avec quelqu'un dont au moins l'un, peut-être les deux, mais au moins l'un n'a pas du tout envie de jouer ça et a envie que le conflit se résolve à son avantage.
Alors, vous avez complètement raison, pour qu'il y ait médiation, dans médiation, il y a médier.
Oui.
Pour qu'il y ait communication non violente par une médiation, il faut qu'effectivement les deux protagonistes, au sens noble du terme, soient partie prenante. Or, si effectivement une des parties n'est pas prenante, il ne pourra pas y avoir de démarche de médiation. Donc, il peut y avoir à ce moment-là accompagnement au changement avec la personne qui est partie prenante et qui a besoin de travailler sur elle-même, sur qu'est-ce qui ne va pas dans l'église, qu'est-ce qui me heurte, qu'est-ce qui me fait mal, etc., etc. Et il peut y avoir de la part des médiateurs un accompagnement, mais ce ne sera pas une médiation. Puisque pour qu'il y ait processus de médiation, il y a 5 étapes, et pour qu'il y ait processus de médiation, il faut effectivement une adhésion des deux parties prenantes. Et ce qui est intéressant dans notre Église, c'est que la Constitution, donc qui a été votée en 2019 au Synode national, a permis que l'article 28 de notre Constitution sur justement les différends, les désaccords, les conflits, introduise la question de la médiation. Parce que jusqu'en 2019, nous n'étions que sur la conciliation. Et la différence entre les deux, c'est que la conciliation, c'est quelqu'un d'extérieur qui vient dire au protagoniste, au vu de ce que j'ai entendu de vous, etc., etc., avec tout ce que je pense d'important de chacun, c'est donc tout à fait noble et honnête, je pense que vous pourriez agir de telle et telle manière, etc. Alors que dans la médiation, ce sont les médiés, ce sont les protagonistes eux-mêmes qui vont élaborer un projet de négociation qu'ils vont pouvoir co-signer et auxquels ils vont s'engager par la suite. Donc c'est gagnant-gagnant, comme on dit dans le langage un peu familier. Mais c'était très intéressant parce que ça permet de rebattre les cartes de ce qui se passe en Église, en communauté d'Église. Les lieux de pouvoir, il y a aussi un très bon livre sur la toute-puissance dans l'Église.
Ah, il y a... oui, mais je voulais en parler de celui-là.
Voilà. Et donc, tous ces lieux où quelque part va se jouer, et j'utilise le terme exprès parce que ça se passe dans les jeux psychologiques, donc lors de l'inconscient, il va se jouer des places, des rôles, des questions de pouvoir, et donc il faut que tout ça puisse être, j'aime bien le tricot, donc j'aime bien dire, doit être détricoté. Et quand il y a un nœud quelque part, au lieu de couper la laine, je vais chercher à défaire le nœud. Eh bien, c'est une image aussi pour illustrer ce que peut être l'accompagnement en médiation.
Mais comment repérer celui qui ne veut pas jouer le jeu? Parce que ce que dit Frédéric Rognon, alors je voudrais pas en parler trop parce que je dois faire une émission avec lui et donc je voudrais pas tout dévoiler, mais enfin il dit que l'Église attire beaucoup de personnalités au profil pathologique. Voilà. Donc des personnes qui se positionnent en toute puissance, ce sont des individus que l'on qualifie parfois de pervers narcissiques, et paf. Comment parce qu'effectivement ces gens-là sont très séduisants, ils sont prêts à discuter, il faut repérer que ce sont des manipulateurs.
Complètement. Alors la difficulté, enfin, l'intérêt de la médiation, c'est que nous sommes formés à la médiation. Enfin, il est important d'être formé à la médiation. Nous ne sommes pas thérapeutes.
Oui.
Donc ça, c'est important. Accompagner des personnes en situation de heurte, de conflit, de divergence de point de vue, va leur permettre de cheminer pour à un moment donné peut-être leur permettre de prendre conscience qu'il y a un accompagnement auto-thérapeutique qui peut être fait. Puisque nous n'avons pas à poser de diagnostic, et ça, en tant que soignante, tiens absolument.
Oui, oui, oui.
Du coup, c'est effectivement là où les protagonistes parfois ne veulent pas rentrer dans une démarche de médiation, parce que quelque part, ils savent au fond d'eux-mêmes qu'il y a une problématique beaucoup plus profonde et qu'elle ne pourra pas être régler, traiter, parler en médiation. Donc, il y a effectivement des personnalités, parce que ce ne sont pas des personnes. Il faut bien distinguer la personne de la personnalité. Et Tybee Keller, qui est un psychologue américain, a identifié que l'humain pouvait avoir 6 typologies de personnalités. Donc,
bon,
tout l'intérêt...
Je pensais qu'on pouvait être, vous savez, comme dans ces films où il y a des gens qui deviennent 2 personnes différentes, voire 3. 6, ça fait beaucoup.
Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de travailler là-dessus. Ça s'appelle la process com. Et pour repérer dans quelle personnalité, moi, je suis.
Ouais.
Et quelle est la deuxième personnalité qui va se générer au cours de l'expérience.
J'ai quelque chose qui me vient à l'idée.
Allez-y.
Si vous faites ça sur vous et que l'autre ne le fait pas, vous mettez en position... comment dirais-je, moi, de désavantageuse, parce que lui va prendre pouvoir sur vous.
Possible, mais du coup, c'est comment se protéger.
Oui.
Et dans toute relation de heurt, je préfère ce mot que le conflit parce que il est tellement vulgarisé qu'on ne sait plus ce qu'on met dessous. Dans une situation de heurt, et c'est ce que j'ai appris à mes dépens dans l'Église, c'est comment à un moment donné dire stop. parce que j'ai besoin de me protéger.
Oui.
Et je crois que c'est important, c'est tout ce travail sur soi qui permet justement d'apprendre à repérer les limites, parce que nous avons tous des limites dans la relation interpersonnelle. Mais je crois que l'intérêt, et Jésus nous l'a montré, l'intérêt de cette médiation, de cette relation à l'autre apaisée, c'est justement d'inviter tout un chacun, lorsqu'il y a un heurt, de pouvoir travailler sur soi et que les protagonistes puissent aussi venir. Nous avons effectivement des personnes qui ne peuvent pas. Mais je pense que l'un des gros problèmes de notre Église, et Frédéric Rognon, on avait travaillé aussi justement pour mettre dans l'article 28 cette situation de la médiation comme autre perspective que la conciliation, c'est d'arriver à ce que dans tous les lieux de notre institution, la médiation soit reconnue. Parce qu'hélas, elle est reconnue en termes général, mais elle n'est pas reconnue dans les faits. À savoir que dans les faits, il est encore difficile pour des conseillers nationaux, des conseillers régionaux, des conseillers presbytéraux et des membres engagés dans l'Église de se dire, là, il y a effectivement un heurt avec quelqu'un, comment nous pouvons le parler, le mettre en travail efficace.
Alors, on arrive un peu à la fin de l'émission, je voudrais rebondir sur ce que vous dites. J'avais d'autres questions, mais bon, on n'aura pas le temps. Mais je ne vais pas demander des statistiques parce que le terme n'est pas bon. Mais ça marche combien de fois? Souvent? Pas souvent? Beaucoup? Pas beaucoup? Ça, c'est la première question.
Alors, je pense que comme tout ce qui relève de l'humain, c'est extrêmement difficile de le quantifier. Je dirais plutôt que par les expériences en Église que j'ai pu avoir d'accompagnement de personnes dans le cadre de heurts, eh bien, il y a effectivement, lorsqu'il y a accord et engagement des différents protagonistes, il y a une démarche positive qui se met en place. D'abord en travaillant sur soi, en travaillant sur l'autre et en cherchant les relais et les ponts qu'on va pouvoir faire. Donc, je n'aurai pas de statistiques à donner. La seule chose que je peux dire, c'est quand je vois le nombre d'appels que je peux avoir de personnes qui, à un moment donné, se sentent heurté par quelque chose. Et comme il n'y a pas de possibilité de médiation, ils vont demander une écoute. Et du coup, l'autre volet de la médiation, c'est l'écoute active. C'est-à-dire donner une place à cet autre qui, à un moment donné, a besoin de se dire, comme dit Jacques Salomé. Et donc, ça peut prendre beaucoup de temps, en heure, mais aussi en disponibilité physique, psychique, psychologique, spirituelle, pour accompagner les gens qui ont besoin.
Là, vous parlez donc de récupérer, le mot n'est pas joli, mais j'en ai pas d'autre, de récupérer les personnes donc qui ont été heurtées, mais la situation dans une paroisse de heurts, il y en a beaucoup qui se règlent grâce à la médiation.
Non, parce que la médiation dans notre pays ne fait pas encore partie des solutions pouvant être appliquées.
D'accord.
Que ce soit dans l'église, que ce soit hors église, on s'en rend bien compte.
Et très très rapidement, parce qu'il nous reste vraiment plus beaucoup de temps, comment on fait quand ça marche pas? C'est la question piège.
Moi, je dirais simplement que les personnes pour lesquelles ça n'a pas été possible peuvent continuer à appeler parce qu'effectivement, ils ont besoin d'être écoutés.
Mmh.
Et pour ceux pour lesquels le conflit ne peut pas être réglé parce qu'il y aurait un travail sur eux à faire et qu'ils ne peuvent pas, eh bien, ça va perdurer. Donc, c'est comment accompagner ce qui n'a pas pu être traité.
Eh bien, je vous remercie. Donc, merci Anne-Marie Borne de tous ces éclairages, d'abord théologiques et puis aussi la façon dont vit l'institution, et puis malheureusement la façon dont l'institution essaye de résoudre un grand nombre de heurts. Je remercie nos auditeurs. Je leur demande de bien vouloir réagir parce qu'ils ont certainement des choses à dire là-dessus. À un protestant peut en cacher un autre. @radiofmplus.org. Un protestant peut en cacher un autre, tout attaché. Je sais que c'est pas une adresse facile, mais c'est la seule que j'ai trouvée, puis je veux pas la changer, sinon ça déboussolerait tout le monde. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer vos réactions, on en a besoin. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine.
Merci, Yolande.
Au revoir.
Thank you.
protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.